Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre époque de mutation, de crise et de bouleversement permanent est en train de faire naître une nouvelle catégorie de la population mondiale qui pourrait bien préfigurer l'avenir. Marie Dariussec rappelait récemment qu'on ne trouve même pas de nom pour cette catégorie qu'on appelle successivement migrants, exilés, réfugiés ou naufragés et qu'on pourrait peut-être appeler à tous les sens du terme les déplacés. À quoi renvoie leur expérience? Qu'a-t-elle d'universel? Qu'a-t-elle de spécifique et comment en parler? Après le Festival d'Avignon qui a tenté de répondre à la question avec plus ou moins de bonheur, c'est au tour de cette rentrée littéraire d'aborder le sujet de différentes façons. À Marie Dariussec avec La mer à l'envers, déjà citée, on peut ajouter l'italienne Cristina Cattaneo avec Naufragé sans visage, l'américano-mexicaine Valeria Luiselli avec Archives des enfants perdus, ou encore l'extraordinaire Girl de la romancière Edna O'Brien. Que ces auteurs soient toutes des femmes n'est peut-être pas un hasard. Tout également, et ce n'est pas une critique, aborde le sujet avec l'empathie et la distance que leur autorise leur position d'occidental. Signe des temps a choisi de faire dialoguer, au contraire, deux écrivains qui vivent et écrivent au plus près de l'expérience de ces déplacés, en l'occurrence subsahariens. Fatou Diome, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né à Niodior, dans les deltas du Saloum, en pays sérère, au sud-ouest du Sénégal. Et c'est la région qui sert de décor à votre nouveau roman « Les veilleurs de Sangomar », qui ne parle pas des réfugiés, mais qui fait écho à la problématique des réfugiés, comme on va le voir tout à l'heure. Louis-Philippe d'Alembert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes né à Port-au-Prince, vous avez grandi dans le quartier populaire de Bel Air, à l'époque de Duvalier. C'est un monde que vous évoquez dans votre premier livre, « Le bon Dieu n'a pas de gomme ». Vous avez été journaliste en Haïti avant de venir en France, je crois que c'était en 86, pour suivre des études littéraires. Vous avez passé un doctorat notamment sur l'écrivain cubain Alejo Carpentier. Vous êtes polyglotte et vous avez vécu à Rome, à Jérusalem apparemment, à Berlin, à Naples. Et vous sortez cet automne Mur Méditerranée, qui est sélectionné pour le prix Goncourt des lycéens, en dépit de sa violence, et qui aborde directement, pour le coup, la question des réfugiés. Première question tout d'abord à vous, pourquoi est-ce qu'un écrivain haïtien s'intéresse aux migrants d'Afrique ?
Parce que c'est un être humain comme tout le monde, un écrivain haïtien d'abord. Ensuite, je suis peut-être pas d'accord avec l'idée de violence parce que j'essaie d'écrire un roman assez réaliste, bien sûr, au plus près de la réalité, mais en même temps, il y a beaucoup de pudeur dans ma manière de le dire, en fait. Pour écrire ce roman, je me suis d'abord beaucoup documenté, mais ensuite j'ai séjourné pendant un mois à l'île de Lampedusa, en Italie, où j'ai pu rencontrer bien sûr des associations qui se battent pour un meilleur accueil des migrants. J'ai rencontré un très bon ami qui est devenu ami maintenant, un sociologue, Marco Aimé, et puis j'ai rencontré pas mal aussi de réfugiés. Et ces gens-là ne racontent pas justement ces choses-là avec de la violence. Ils les racontent avec beaucoup de pudeur, beaucoup, parfois même de douceur. On a l'impression qu'ils taisent des choses. Donc, quand j'ai écrit ce roman, j'ai essayé de trouver plus ou moins le même ton. C'est-à-dire que sans rien cacher, mais en même temps, en laissant cette possibilité de douceur que j'ai pu entendre dans et certaines voix, et surtout en partant pour ces trois personnages féminins, donc vous avez parlé au début du roman, justement, de trois personnages féminins, mais en partant de leur vie d'avant. Donc, pourquoi je suis parti de la vie d'avant? C'est justement pour montrer que ces gens-là avaient une vie, avec des rêves, de l'espoir. Hein. L'un des personnages, Shoshana, rêvait d'être avocate. Semar rêvait d'être institutrice. Dima, la Syrienne, avait déjà une vie bien établie. Donc, c'est des gens qui étaient installés dans une vie avant d'être contraintes de prendre la décision de partir. C'est-à-dire, ça signifie quoi? Ça signifie qu'ils vivaient leur vie comme tout le monde, avec beaucoup d'humour. Chez Shoshana, par exemple, il y a beaucoup de gouailles, et ça, on le retrouve aussi dans le roman. Et chez Semar, c'est une espèce de petite teigneuse, que je l'appelle Astérix en jupon. Elle est toute petite, toute frêle, on a l'impression que... si on la touche, on va la casser. Pourtant, elle a beaucoup de force en elle, beaucoup de détermination. Donc, que voilà, c'est un roman en fait que j'ai essayé d'écrire un peu comme la vie, avec des moments très durs, mais avec des moments de douceur aussi, quoi.
Alors, dans Mur Méditerranée, il y a la citation d'un poète anglophone caribéen, prix Nobel de littérature, qui est Derek Walcott. À un moment donné, Derek Walcott écrit « Où sont vos monuments, vos batailles, vos martyrs? Où est votre mémoire tribale? Dans ce caveau gris, la mer les a enfermés. » Je me suis dit en lisant ça que c'était une citation qui pouvait convenir à vos deux livres. Bien que Fatou Diome, le vôtre ne parle pas exactement des réfugiés, il parle d'un naufrage, d'un naufrage authentique, qui est le naufrage du Shoah en 2002, avec 2000 personnes à son bord, dont 64, je crois, seulement ont survécu.
Oui, 64 survivants. Oui. Il y a environ 2000 personnes. On ne connaît pas le chiffre exact. Le chiffre officiel, c'est 1864. Mais tout le monde s'accorde à dire qu'il y aurait autour de 2000 personnes et seulement 64 survivants. Il y avait 44 membres d'équipage. Donc, et toutes ces personnes disparues venaient de tous les coins du monde. Il y a des Européens, des Africains.
Oui, ce n'était pas du tout un bateau de réfugiés.
Non, pas du tout. C'était une miniature, je disais, c'est une miniature de l'humanité. Il y avait des Européens en vacances ou dans des associations humanitaires. Il y avait des étudiants sénégalais du sud du Sénégal qui revenaient vers Dakar. C'était en septembre. La rentrée scolaire se préparait. Il y avait aussi des commerçants et tous les âges. Et parmi mes personnages, on a un jeune qui a tenté aussi l'immigration, qui est marié à une Marseillaise et qui est venu justement avec sa femme en vacances pour lui faire découvrir son territoire natal. Et malheureusement, ce couple-là aussi ne survivra pas à cette catastrophe.
Et pourquoi vous avez eu envie d'écrire sur cette catastrophe en particulier?
Parce que c'est un traumatisme, je pense, pour le peuple sénégalais et même pour toute l'Afrique. Et j'ai été un peu choquée de voir que ça ne faisait pas plus de bruit que ça. 2000 personnes qui s'effacent de la carte du jour au lendemain. 2000 âmes qui sortent de l'humanité le même soir, la même nuit, avec toutes les ethnies, toutes les couleurs, tous les pays. Et on en parle si peu. Et ça m'a posé beaucoup de questions. Alors, qu'est-ce qui détermine l'émotion de l'opinion internationale? Est-ce que c'est la richesse du pays? Est-ce que c'est la position sur le globe? Qu'est-ce qui fait que les catastrophes nous touchent ou pas?
C'est un des points communs entre vos deux livres et un des échos du problème des réfugiés ou dans votre livre, Fatou Diome, c'est qu'on retrouve la même chose, la même indifférence vis-à-vis des victimes. Et aussi, vous le sous-entendez, puisque même si le livre n'est pas une enquête sur les causes de la catastrophe, la même négligence vis-à-vis de la sécurité, vis-à-vis de la population.
Oui. Le bateau était prévu quand même pour ne contenir ou ne transporter que 550 personnes. Donc l'écart est énorme. Comment passe-t-on de 550 passagers autorisés à 2000? Donc forcément, il y a des responsabilités, sauf que le dossier a été classé 3 ans après. On a mis la faute sur le capitaine qui malheureusement ne pourra pas se défendre. Lui-même fait partie des personnes disparues. Et donc moi, je me suis dit, je ne vais pas aller au tribunal, je ne vais pas faire l'enquête judiciaire. Je vais faire une enquête humaine, émotionnelle, affective. Comment survivent les veuves, les orphelins? Comment survivent les parents qui ont perdu leurs enfants?
Oui, c'est un livre de deuil.
Voilà, c'est ce livre-là, Comment rebondir. Vous savez, il y a le couple de retraités marseillais. Ils avaient une fille unique, Pauline. Ils ont perdu cette
dans
fille unique.
Livre.
Voilà. Et comment on appelle des parents qui ont perdu leur enfant? Donc, quand on perd son mari, on est veuve. Quand on perd sa femme, on est veuve. Et quand on perd ses parents, on est orphelin. Mais pour des parents qui étaient parents, et du jour au lendemain, ils ne sont plus du tout parents. Ils n'ont plus d'enfants. Comment les appeler? Le dictionnaire de la langue française n'a pas trouvé un terme pour cela. Ou alors, je ne l'ai pas trouvé en tout cas.
Alors, vous inspirez tous les deux d'histoires authentiques. On vient de le dire pour vous, Fatou Diome. Mais c'est vrai aussi... pour vous, Louis-Philippe d'Alembert, dans Mur Méditerranée, vous vous inspirez quand même en particulier du sauvetage en juillet 2014 par un tanker danois d'un chalutier qui comptait plus de 800 personnes. C'est de là que vous êtes parti.
Oui, c'est de là que je suis parti, mais pas uniquement de là. Tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question, je vous ai répondu par une boutade en disant simplement parce que je suis humain, je m'intéresse à ce type d'histoire, mais je suis aussi d'une génération en Haïti qui a été énormément marquée par ce qu'on appelait à l'époque, dans les années 70 et début des années 80, les boat people. Un peu comme pour les Vietnamiens qu'il y avait. Donc, il y avait dans la Caraïbe les boat people haïtiens et les boat people cubains en particulier, et aussi quelques dominicains. Donc, c'était des vagues de gens qui partaient vers le nord et du monde, donc vers les États-Unis en particulier. Et toute mon adolescence a été marquée par ces boat people-là. Donc, à partir du moment où je suis arrivé en Europe et que il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les migrants qui arrivent, donc c'est une histoire qui fait écho en moi, qui m'interpelle en tant qu'haïtien, et forcément. Mais et ce que je voulais dire avec ça, c'est que quand j'ai écrit mon roman précédent, et avant que les ombres s'effacent, je suis tombé sur, je faisais des recherches beaucoup comme ça concernant la Seconde Guerre mondiale, les nazis avaient installé en France ce qu'ils ont appelé le Südwall, qui est une espèce de rempart du Sud. Donc, des fortifications, des bunkers, des blockhouses, par exemple, qui allaient de Cerbère à Menton. Mm-hmm. Donc, une espèce de mur pour contenir un éventuel débarquement des Alliés. Et là, ça fait tilt dans mon esprit. Et parce que, justement, j'étais déjà en liaison, j'ai envie de dire, avec cette histoire de la Méditerranée. Et à partir du moment où j'ai commencé à écrire, je suis tombé. J'ai fait beaucoup de recherches pendant plusieurs mois. Je suis allé à Lampedusa. Je n'arrivais pas à trouver l'angle, pas où raconter l'histoire. Et je ne voulais pas faire un roman reportage. Je voulais que ce soit quelque chose de sensible. Et quand je suis tombé sur cette histoire-là, justement, qui n'a pas fait beaucoup de bruit non plus, ici en France du moins, mais ça a fait beaucoup de bruit, et au Danemark, parce que c'est un pétrolier danois qui a sauvé ces gens-là. Ensuite, ça fait beaucoup de bruit en Italie, parce que les réfugiés ont été acheminés vers l'Italie. Mais il y avait un scandale là-dedans, parce que le bateau, au départ, était un bateau avec 800 personnes à bord. Et quand le capitaine danois va arriver avec son pétrolier, enfin, de compte, on ne trouvera que 569 personnes. Où sont passées les autres? Donc, ce qui s'est passé exactement sur le bateau, c'est que justement, c'est aussi là aussi une miniature de l'humanité, parce qu'il y avait sur ce bateau des gens sur le pont et des gens dans la cale. Et les gens sur le pont étaient en majorité maghrébins et moyen-orientaux, et les gens dans la cale étaient en grande partie subsahariens. À un moment donné, quand le bateau commence à faire haut, et ceux du dessous, il y en a certains qui sont morts asphyxiés, ils ont voulu monter sur le pont. Et là, ça a été vraiment le massacre. C'est-à-dire, ceux du dessus ont matraqué parfois et poignardé ceux du dessous. Et à partir de là, je me suis dit, mais pourquoi on n'en a pas parlé? Et là, je me suis dit, tiens, je tiens mon angle. Et j'ai imaginé sur ce bateau, trois femmes. Oui. Et c'était important que ce soit des femmes pour moi, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui tentent cette aventure. On n'en parle pas. Et on nous montre toujours une espèce de masse globalisante d'hommes, souvent. Il y a des femmes qui font, ce voyage. Et j'ai essayé de mettre autant que faire se peut dans la peau de ces femmes-là pour raconter cette histoire. Mais je me suis largement inspiré des témoignages, des survivants. Je me suis largement inspiré aussi des interviews que ce collègue italien avait faites. Donc, tous ces éléments-là m'ont permis de raconter l'histoire, et j'ai raconté, sans citer leur nom, les cinq personnes qui vont être arrêtées par la suite, des passeurs, dont j'ai donné leur nationalité, je les ai décrits.
Il y a un Palestinien, un Tunisien,
ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que j'ai vraiment donné leur nationalité, je les ai décrites en tant que personne, mais sans dire les noms, quoi.
Qui s'avèrent meurtriers. Mais on va reparler de la manière dont vous divisez, dont vous montrez les différentes catégories, à la fois sociales et ethniques dans le livre, parce que c'est important. Mais, Fatoudium, c'est important pour vous de mettre au personnage principal du livre, une femme aussi? J'étais frappée par ça.
Mais parce qu'on fait tellement peu de place aux femmes parfois que si je peux me permettre ce luxe dans mes dans mes livres. Mais bon, dans Le Vent de l'Atlantique, par exemple, la majorité des personnages c'était quand même des garçons, fous de football et des migrants aussi. Dans Celles qui attendent, c'est moitié moitié. Il y a les épouses qui attendent, les fiancés et les mères, mais il y a aussi les hommes qui partent. Donc non, c'est pas très divisé. Il y a toujours des hommes formidables dans mes livres aussi, mais parfois j'aime montrer ces femmes qui luttent. Pourquoi? Parce que la société nous montre beaucoup plus souvent des hommes debout et des femmes derrière, cachées. Et je rends hommage à cette ténacité des femmes, cette lutte des femmes. Là, dans ce livre, Kumba, elle se retrouve veuve, elle est jeune. Elle a perdu son amoureux à la fleur de l'âge. Elle a une petite fille à élever. Et donc, c'est juste un choix psychologique. C'est comment cette femme-là va se relever, comment elle va continuer sans son amoureux. Elle doit renoncer à ses rêves pour en créer d'autres. Comment la belle-mère vit tout ça à côté. Oui. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces personnages féminins. Mais il y a aussi les métamorphosés, donc leur rôle n'est pas.
Les métamorphosés très... qui sont les croyants, enfin qui sont les bigots.
Les faux dévots.
Les faux dévots.
Voilà, ce sont les faux dévots des Tartuffes des temps modernes qui ne connaissent pas beaucoup les livres saints, mais qui s'en gargarisent. Donc ils n'arrêtent pas de parler de religion, comme si la religiosité leur donnait une espèce de.
En l'occurrence l'islam.
Oui, en l'occurrence l'islam, alors que ce ne sont pas des théologiens. Et le nombre d'années en plus n'accorde pas de compétences religieuses. Et il y a des gens qui ne connaissent pas le texte. D'ailleurs, la sourate Baqara dénonce ces gens-là. La sourate Baqara dit, il y a parmi eux des gens qui ne connaissent pas les textes et qui ne font que des conjectures. Mmh. Et donc, ceux-là s'autorisent à prêcher. Mais c'est plutôt leur dictat qu'ils essayent d'imposer. Donc, une veuve ne doit pas s'habiller comme ça. Une veuve ne doit pas sortir à cette heure. Voilà.
Dans le roman, ils essayent de montrer à Kumba comment elle doit se vêtir, comment elle doit se conduire. Ils essayent aussi de la remarier.
Voilà, exactement. Donc, ils veulent qu'elle accepte le lévirat. Et ce sont plutôt des autoritaires. C'est de l'autoritarisme. Ce n'est même pas des guides religieux. Vous savez, au Sénégal, ce qu'on appelle marabout. Mm-hmm. En tout cas, le sens qu'on lui donnait avant. Mm-hmm. Un marabout, c'était presque un psychologue. C'était quelqu'un qui accompagnait les gens dans leur quête. Alors que maintenant, c'est devenu une occupation monétaire pour certains, financière en tout cas.
Alors, dans vos deux livres, bien qu'ils se fassent écho, ils sont de facture extrêmement différente. Et c'est une des choses qui m'a intéressé, c'est que Fatoudium, c'est presque un conte que vous racontez. Il a plongé dans une sorte de syncrétisme, fait que vous, dans le livre en tout cas, fait que vous faites appel non seulement à l'islam, mais aussi à l'animisme et à toutes les légendes. Donc, on a les esprits des morts qui viennent, puisque c'est tout, toute la tâche de Kumba, de faire revenir l'esprit ou le mort, en fait.
Mais quand on me dit conte, vu que je suis africaine, je suis toujours méfiante. C'est pas vraiment, chère Marc, c'est pas vraiment un conte, c'est un roman, c'est une fiction, une vraie fiction. Parce que quand on connaît la structure narrative du conte, donc je ne m'autoriserai pas, ça semble irréel parce que quelqu'un parle aux esprits. C'est juste un autre monde possible. Mm-hmm. C'est le substrat animiste de l'Afrique noire.
Voilà.
C'est la vraie religion authentique de l'Afrique noire. Donc, toutes les autres religions, je n'ai rien contre, mais ce sont des bandes adhésives. Mm-hmm. Donc, et là, je fais parler la religion profonde de l'Afrique noire qui fait que même quand les gens sont chrétiens, même quand ils sont musulmans, ils continuent à croire aux esprits, ils continuent à invoquer leurs ancêtres et puis continuent à croire aux djinns. Et il y a ce syncrétisme religieux parce que l'animisme, en tout cas qu'on avait chez les Sérères, croyait au monothéisme. C'était Roxen, c'était un dieu unique qui n'était nulle part.
Il faut expliquer un peu, comment vous l'appelez, Roxen?
Roxen, et c'était Roxen, ça veut dire partout et nulle part. C'est pour ça qu'il n'avait pas un lieu de culte comme une église ou une mosquée. On pouvait prier partout dans la nature, les arbres, il y avait un rendez-vous avec les esprits, souvent dans les bois sacrés, parce que c'est ouvert. Et donc, il n'y avait rien qui séparait du ciel. Ce n'est pas borné, parce qu'on considère que cette divinité-là, elle coiffe tout pour le monde entier, pour tout ce qui est vivant, végétal, animal, tout ce qui est vivant est sous sa tutelle. Et même quand les gens de chez moi sont musulmans aujourd'hui, les Sérères, ou chrétiens, ils continuent à appeler Dieu Roxen.
Mmh. Oui, c'est un des éléments les plus intéressants du livre pour moi. C'est vraiment un univers très, très différent, enfin très neuf qu'on découvre. On pense aux auteurs antiques, hein, on pense à Ovid, parce que les questions de bois sacré évoquent comme ça, et le dialogue avec les morts,
et
évidemment,
Cicéron,
évoque l'Antiquité.
Cicéron,
bien sûr.
Qui invoque l'âme de ses morts, ses âmes dans l'obscurité sont les âmes de ses chers morts.
Exactement, mais on pense aussi, au local, c'est-à-dire que c'est très ancré dans le lieu où se passe l'action. Mmh. Sangomar, c'est cette bande de sable où sont censés vivre les esprits, si j'ai bien compris.
En face de mon village natal,
En face de votre village
natal. J'y étais il n'y a pas longtemps et j'ai parlé aux esprits aussi.
Voilà. Tandis que vous, Louis-Philippe d'Alembert, on est c'est assez intéressant parce que les deux livres se font écho, mais avec vous, on est au contraire dans le déracinement total. C'est-à-dire les trois personnes que vous ancrez effectivement dans leur réalité respective, juives, musulmanes, chrétiennes, orthodoxes d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, Shoshana, Semar et Dima, et elles sont arrachées à leur vie respective pour se retrouver ensemble sur un rafio au milieu d'hommes et de femmes, et avant le rafio, dans des camps en Libye où ça se passe très très mal. Donc on est dans le déracinement total, au contraire. Mais ce que vous montrez, c'est comment ça se passe mal, c'est-à-dire les divisions de classe aussi, d'une part.
Les divisions de classe, c'est les tensions raciales aussi.
Et les tensions raciales, j'allais dire, oui.
Qui sont là, mais en même temps, j'écoutais Fatou Diome avec beaucoup d'attention et j'ai envie de dire beaucoup d'intérêt, parce que l'haïtien que je suis se retrouve un peu dans tout ce qu'elle dit,
oui.
Donc le fait de parler aux esprits, de parler aux morts. Et vous avez mentionné les trois religions, donc le judaïsme, l'islam et le christianisme, mais en même temps, il y a un des personnages, justement, à un moment donné, au moment de mourir, justement, il va psalmodier des textes en latin, mais en même temps, il va dire Elegba, il va dire Dambala, qui sont des esprits fonds, des esprits fonds, donc qui viennent du côté du royaume du Dahomey, et vous m'en dites de l'actuel Bénin. Et ce sont des esprits qu'on retrouve dans le vaudou haïtien.
Oui.
C'est-à-dire que ce sont des éléments qui sont là, et il faut connaître, j'avoue, mais en même temps, il y a une forme de spiritualité qui, pour moi, est de l'ordre de l'universel, et qui n'est pas uniquement cette spiritualité, donc à partir des trois religion, je mets entre guillemets révélée, donc il y a une spiritualité qui existe partout dans le monde, mais c'était important qu'il y ait cette spiritualité-là, parce que pour réaliser un voyage de ce type-là, avec ces trois personnages, on a besoin de croire en quelque chose. On a besoin, ces femmes qui vont laisser leur pays, qui vont traverser le désert, et pendant des semaines, après qu'ils vont se retrouver emprisonnés en Libye, ou bien Dima, qui est originaire d'Alep, donc une ville bombardée du matin au soir, et puis au bout de quelques temps, elle finit par se décider à partir aussi. Donc on a besoin de croire en quelque chose. On a besoin de cette foi-là et de se dire que tout ce qu'on traverse là, maintenant, ce sont juste des épreuves. Et la notion d'épreuve, elle est propre à toutes les religions du monde. On a toujours l'impression que ce qui nous arrive maintenant, ce sont juste des épreuves pour qu'on puisse après passer à autre chose. Donc c'est ce qui va leur permettre à ces femmes-là de tenir et de poursuivre ce voyage.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann.
C'était Delgrès, le rock blues caribéen, antillais, guadeloupéen. Et pour revenir à vos livres respectifs, Louis-Philippe d'Alembert, d'abord, on parlait des différences de classe et des différences ethniques. Vous n'y allez pas de ma morte sur le racisme dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on voit quand même, les Noirs se font tous traiter de nègres par les Libyens, sur le bateau, par les Arabes. C'est assez dur, hein.
Oui, encore une fois, je me suis beaucoup inspiré des témoignages.
Des témoignages.
Des gens qui ont survécu et ils ont repris, ou plutôt j'ai repris, tout ce qui a été dit. C'est-à-dire comment ils ont été perçus, comment ils ont été traités. Et je me suis dit, il n'y a aucune raison, comment dire, de ne pas dire les choses telles qu'elles ont été vécues oui. ou ressenties par ces gens-là.
Oui, il y a aussi les femmes dans le livre de Louis-Philippe, donc la maltraitance. Il y a leur statut de migrante ou de réfugiée, mais il y a aussi leur statut de femme qui les fragilise. Elles doivent tenir tête aussi à ces bourreaux-là.
Oui, tout à fait. Dans le camp en particulier, dans le camp avant d'aller sur
le bateau,
où les viols sont quasi systématiques. Ça, vous le montrez très bien.
Oui, et il y a ces femmes qui essayent chacune à sa façon. Il y en a qui essayent de négocier, il y en a d'autres qui essayent de tenir tête, comme comment dire, la petite Semar, qui a reçu une formation militaire dans son pays, donc elle est originaire de l'Érythrée, où il y a un service militaire obligatoire pour les deux sexes. Donc elle n'était pas du genre à négocier. Et donc elle, du coup, forcément, elle en a reçu un petit peu plus que les autres. Donc ce sont des femmes qui ont essayé de tenir malgré tout, justement, donc ce que Fatou a dit, et qui se battent avec les armes à leur portée. Et là, elles sont beaucoup plus fragiles, justement, parce qu'il y a ces possibilités de viol ou de prostitution, ainsi de suite. Mais et ça va même au-delà, parce qu'il y a des hommes qu'on a forcés, donc, d'après les témoignages recueillis, qu'on a forcés à violer d'autres hommes.
Oui.
Donc ce sont des éléments que j'ai essayé de dire, mais sans vraiment le décrire vraiment, parce que ça j'ai refusé de le faire parce qu'il n'y avait aucun intérêt. Je voulais pas faire un roman trash non plus, c'est-à-dire c'est suggéré, c'est juste utiliser le mot mais sans entrer dans les détails.
Non, la violence elle explose juste à la fin, c'est-à-dire que dans le massacre final c'est direct là.
Oui, parce que c'est, mais quand vous dites que là aussi, comment dire, j'atténue, c'est-à-dire c'est absolument rien par rapport à ce qu'on peut voir à la télévision ou sur Internet comme violence. C'est-à-dire que là, ce sont des mots et justement, et j'essaie de mettre un peu de poésie aussi dedans pour justement atténuer sans rien cacher. C'est-à-dire, on est dans un roman réaliste, mais, en même temps, c'est ce que je disais au début, je me devais d'être clair, entre guillemets, c'est-à-dire de dire exactement ce qui s'est passé, mais sans accentuer, et sans entrer dans les détails, sans tomber dans quelque chose de trash.
Et vous montrez aussi les contradictions, c'est-à-dire que le personnage de Dima, qui est donc la Syrienne issue de classe supérieure, qui est raciste pendant pratiquement tout le long du livre, Samadou, à un moment donné, quand elle, je crois que c'est Marc qui sauve sa fille, oui. À un moment donné, et donc soudainement, il y a une sorte, les relations se nouent entre elles, ce qui ne l'empêche pas quand même de refuser de s'asseoir dans le bus, au moment du débarquement.
Mais
elle refuse de s'asseoir à côté d'elle.
Oui, mais ce qui s'est passé, c'est que ce personnage de Dima, elle s'adoucit même bien avant que, comment dire, Semar sauve sa fille, à un moment donné où Shoshana, qui remonte de la cale, est blessée. D'abord, elle donne de l'alcool qu'elle avait. Elle avait auparavant, elle s'était dit que tiens, j'apporte une petite bouteille d'alcool, on ne sait jamais. Donc, elle en donne à Semar pour soigner et Shoshana. Ensuite, elle aurait pu les dénoncer en disant que tiens, elles étaient à la cale, elles sont montées sur le pont, mais elle ne l'a pas fait non plus. C'est-à-dire que j'ai essayé d'utiliser à la fois les contradictions de l'être humain, l'ambiguïté plus que contradiction, je dirais, parce que l'être humain est foncièrement ambigu et il n'y a jamais quelqu'un qui est d'un côté tout noir ou de l'autre tout blanc. Et ce personnage de Dima a aussi ses préjugés de classe, mais en même temps, elle est humaine. Et en plus, c'est une musulmane, pratiquante, elle est toujours en écho par rapport à ce qu'elle lit dans le Coran, et puis elle se dit, tiens, il faut agir de telle façon. Donc, il y a cette ambiguïté-là qu'on trouve chez tous les êtres humains, et cette femme aussi est double, j'ai envie de dire.
Alors, votre livre Mur Méditerranée est incroyablement, de mon point de vue, enfin, étonnamment, en tout cas, dédié à Angela Merkel.
Non, c'est pas incroyablement ni étonnamment qu'on dit d'abord c'est une femme. Je trouve.
Oui.
Et c'est une femme qui a eu beaucoup de courage comparativement à d'autres leaders politiques dans le monde. Et elle a payé pas uniquement européen, mais dans le monde en général. C'est-à-dire qu'elle a payé le prix fort. Mais elle a quand même fait ce que beaucoup d'autres pays n'ont pas fait. Donc, c'est-à-dire, je me suis beaucoup interrogé avant de le faire, mais je me suis dit, tiens, elle le mérite. Je crois que cette femme, je n'ai jamais, et pour dire les choses clairement, je n'ai jamais voté à droite de ma vie, et donc je ne devrais peut-être pas le dire à l'antenne, mais je trouve que c'est une femme qui a été assez courageuse et que à un moment donné, cette femme-là a fait quelque chose. Quand on pense, par exemple, prenons Barack Obama aux États-Unis, à qui on a donné, comment dire, le prix Nobel de la paix, au moment où Barack Obama n'avait absolument rien fait.
Oui.
C'est-à-dire que, donc, pour quelle raison on va donner un prix Nobel de la paix à Barack Obama? Pourquoi? Parce que c'est le premier président métis des États-Unis? Ou bien parce qu'il a fait quelque chose? Donc, à ce moment-là, moi, je trouve que cette femme, en tant que femme politique, a fait quelque chose, et puis à ce moment-là...
Elle a accueilli des réfugiés.
Elle a accueilli des réfugiés, et puis mon rôle en tant que romancier, c'était de dire, au-delà des clivages politiques que je peux avoir avec un personnage comme Angela Merkel, justement.
Mais alors, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus, tous les deux, d'ailleurs? Parce que Mur Méditerranée, le titre fait référence évidemment à la Méditerranée érigée en mur, qui est, vous dites, Louis-Philippe d'Alembert, le rêve des identitaires, en tout cas. Et Fatou Diome, dans l'interview que vous avez donnée fin août au Monde, qui a fait couler beaucoup d'encre, à la question qui vous était posée, quel regard portez-vous sur le durcissement de la politique migratoire européenne, vous avez répondu, l'Europe renforce sa forteresse, mais qui ne surveillerait pas sa maison?
Bah, c'est juste du bon sens, mais vous étiez là aussi en 2015, quand je me suis insurgée dans l'émission de M. Frédéric Taddeï, Ce soir ou jamais, il y avait 1700 morts. Je n'ai pas pu être tranquille. J'y suis allée, non pas parce que j'avais une solution, mais parce que je trouvais que humainement, nous ne pouvions pas rester sans bouger. Donc c'était insupportable, il fallait le dire. À la fois dénoncer cette froideur avec laquelle l'Europe peut traiter ces questions-là, mais aussi dénoncer la léthargie de l'Union africaine. Et je me répète, quand vos enfants meurent et vous ne réagissez pas, vous ne méritez même pas des condoléances. Et je le répète, je l'ai déjà dit ailleurs, mais je le répète. Et donc, je suis très claire avec ça. Maintenant, la question des migrations, c'est un problème géopolitique international. Je me souviens d'un discours de Macky Sall, le président sénégalais, en Suisse, il leur a dit, la question migratoire, on la colle toujours à l'Afrique, et surtout à l'Afrique noire, mais ce n'est pas un problème exclusivement africain. Donc les réfugiés d'aujourd'hui, vous avez des Afghans, vous avez des migrants noirs, vous avez des gens qui viennent de partout, mais à la frontière américaine, vous avez aussi des Mexicains. Donc la question migratoire aujourd'hui, ce serait très égoïste de balayer seulement devant nos portes.
C'est une question universelle.
C'est un problème planétaire. Donc voilà, c'est un problème planétaire. Et moi, je voudrais appeler aussi les Africains au bon sens. Quand vous allez chez quelqu'un qui vous dit « je ne veux pas de vous », ça doit poser des questions d'orgueil. Tout simplement. Donc au Sénégal aussi, on vient avec des papiers. Mais le problème, c'est que n'importe quel Européen peut prendre son sac à dos et aller dîner à Dakar ce soir, sans le moindre visa. Mais le mouvement inverse n'est pas possible. Alors, vous savez quoi? Le principe de base de la diplomatie internationale, c'est le principe de réciprocité. Donc, vos châteaux sont magnifiques. Mais nos masures à Dakar, si vous voulez les voir gratuitement, eh bien, le mouvement inverse devrait pouvoir être possible aussi. Et ça, il faut le dire. Pourtant, ça ne change rien. Ça veut dire quoi? Il y aurait des humains qui pourraient utiliser l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur la liberté de circulation. Donc ça, ce sont les pays riches qui peuvent bénéficier de cet article des droits de l'homme. D'ailleurs, j'ai réécrit encore cet article pour changer les choses. Parce que ça sert à quoi d'avoir la liberté de bouger si les autres n'ont pas l'obligation d'accueillir? Donc vous arrivez, on vous ferme les portes. Vous avez le droit de bouger puis de vous arrêter à la frontière. Où est la liberté de mouvement? Donc moi, je veux bien que tous les Européens continuent à aller en Afrique comme bon leur semble. C'est ça le rêve de la fraternité humaine, la liberté de circulation. Mais pourquoi les Africains devraient rester dans une espèce de zoo fermé où les Occidentaux viendraient les observer et puis repartir? Donc il faut équilibrer les choses. Et ceci dit, eh bien, on peut aussi comprendre que l'Europe protège sa maison. Parce que n'importe qui en Afrique protège son château, son immeuble ou sa petite case. Eh bien, quelqu'un est responsable de sa demeure. Le pays, c'est une extension de la demeure. Donc il faut se mettre autour de la table, trouver des solutions, parce que ce problème-là, si on n'y trouve pas des solutions, ce problème des réfugiés et des migrants dira si notre époque a été intelligente ou pas.
Mais c'est un problème qui est destiné à s'accroître de toute façon.
Mais oui, parce que le déséquilibre économique mondial fait que ça ne peut que s'accroître. Mais écoutez, c'est simple, les gens qui ont les gamelles vides iront toujours chercher des gamelles pleines ailleurs. Mais quand il y a eu la famine en Irlande, ils sont partis aux États-Unis. On trouvait ça normal. Alors quand les affamés sont noirs, il faut aussi qu'ils mangent. Hein. Donc, mais il faut aussi qu'en Afrique, qu'on comprenne que l'immigration n'est pas la solution à tout. Il faut encourager l'éducation, la formation professionnalisante. Il faut développer nos pays avec cette jeunesse qui, en 2050, une personne sur terre, une personne sur quatre sera africaine. Donc cette jeunesse-là, il faut qu'elle soit un potentiel, pas un poids, mais un potentiel. Eh bien, nous ne pourrons pas utiliser ce potentiel-là si tous les jeunes partent vers l'Europe. L'immigration, ce n'est pas la solution à long terme, ni pour l'Afrique, ni pour l'Europe. Mmh. Voilà.
Bon, je rejoins tout à fait Fatou quand elle parle du déséquilibre économique et mondial. Et tout le problème vient de là, de ce déséquilibre-là. Et déséquilibre par rapport aux échanges, par rapport à qui fixe, par exemple, ne serait-ce que le prix des marchandises. C'est-à-dire que c'est justement les pays les plus riches. Et ces pays les plus riches décident, par exemple, que moi, je vais vous vendre tel produit qui va coûter, par exemple, une centaine d'euros, et vous, votre produit coûte 1 euro. Donc c'est moi qui décide. Et quand on parle justement d'universalité, souvent, l'universel, on le sait, c'est souvent ce qui part de chez moi qui va vers chez toi. C'est, l'inverse n'est pas forcément vrai. Donc à partir du moment où ce déséquilibre économique mondial persistera, donc eh bien, effectivement, on aura toujours cette situation-là. Et il faut trouver une solution, et cette solution ne passe par le dialogue, bien sûr, par la prise de conscience des élites des pays du sud du monde aussi, hein, à un moment donné, qui décident et de ne pas accepter un certain nombre d'échanges. Par exemple, si aujourd'hui il y a du pétrole dans tel pays et africain, qui gère ce pétrole-là, qui extrait le pétrole, qui l'exploite, qui décide du prix, ainsi de suite. Donc à partir du moment où les élites de ces pays, où les gouvernements de ces pays acceptent, donc on est déjà dans le début de ce déséquilibre économique.
Mais vous pensez que quelqu'un fixe les prix de quoi que ce soit aujourd'hui? Parce qu'on a plutôt l'impression qu'on est embarqué dans une espèce de dynamique que personne ne contrôle plus. Hein.
Non, je crois que j'ai envie de dire que le capitalisme libéral sauvage, quelque part, a gagné. Ça veut dire au-delà de tout et de tout adoucissement un peu social. C'est cette forme de libéralisme-là qui a gagné malheureusement et qui fait qu'on a l'impression que personne ne fixe les prix. Mais il y a des gens qui sont derrière, qui tirent les ficelles, qui exploitent, sans tomber dans le complotisme. Hein, ce n'est pas du tout...
C'est
pas du tout mon genre. Mais il y a un certain nombre de gens, de toute façon, on sait qu'ils contrôlent et qui tirent des bénéfices de cette économie qui a l'air complètement sauvage.
Fatoudium.
Ah, mais je ne dirais pas que le capitalisme a gagné. Je dirais que la résignation a gagné, puisque le capitalisme, c'est nous qui le fabriquons. L'économie, c'est nous qui la conduisons, les humains, je veux dire. Quand je dis nous, c'est nous, la fratrie humaine, n'est-ce pas? Bon, la résignation, pourquoi je parle de résignation? C'est-à-dire qu'à un moment donné, les pays développés pensent qu'ils ne peuvent rien faire pour les pauvres démunis de l'autre côté, sur l'autre hémisphère. Et ceux-là, là-bas, ils continuent à justifier leur précarité par le fait que leurs pays sont sous-développés. Alors, à un moment donné, il faudrait se mettre d'une manière complètement dépassionnée, mais tout simplement avec du bon sens et dire, il y a des injustices dans ce monde qui ne peuvent plus honorer notre réputation quand même d'être humain. Si nous sommes des humains, eh bien nous ne pouvons pas jouir de nos libertés, de nos richesses quand il y a des affamés à côté ou des gens privés de liberté à côté. Mais et c'est ça que nous devons combattre pour que ça puisse changer.
Je dirais juste une chose, comment dire, au-delà du moral, ou de la morale plutôt, pardon.
Je ne parle pas de morale, hein, je parle de concrète c'est... politique là.
Non, justement, mais ça veut dire que de se rendre compte de pragmatisme, j'ai envie de dire. Et c'est ce que je pense que dans le livre de Fatou, c'est exactement la même chose. Quand on parle d'un bateau comme ça, justement, on ne s'était pas passé le mot, les deux, on se retrouve sur des bateaux qui symbolisent un petit la planète. Même quand il y a des tensions raciales, il y a des tensions de classe et ainsi de suite, mais on est à bord du même bateau.
La nef des fous, c'est
voilà. C'est une expression qu'on utilise souvent. Et là, on se rend compte, on est à bord du même bateau. Donc, c'est-à-dire que c'est pas en mettant des œillères, ou c'est pas en exploitant outrance les autres, et c'est pas en se résignant reprendre le mot de Fatou, qu'on va y arriver. Si le bateau coule, et c'est ce qui se passe dans mon roman, par exemple, quand le bateau coule, tout le monde s'inquiète. ceux de la cale et ceux du pont.
Mmh, mmh. Est-ce que vous pensez, pour finir sur une question plus disons littéraire, est-ce que vous pensez que l'espèce de syncrétisme dont vous parlez tous les deux à votre manière, enfin vous pas dans votre livre Philippe d'Alembert, mais enfin qui est présent quand même en Haïti, est-ce que vous pensez que cette vision comme ça de voir un autre, d'autres temps et d'autres espaces, je me suis fait la réflexion en vous lisant en fait, peut permettre d'envisager une autre façon global de vivre, une manière alternative.
Alors, moi, c'est un rêve de sortir de la confrontation. Donc, je pense que nous aspirons tous à quelque chose qui nous est supérieur, quelque chose, une quête spirituelle, quelque chose de plus grand que nous. Il suffit de voir quand le bateau, il a coulé, chacun appelait Jésus, Allah, chacun appelait plus grand que lui. Cette quête de l'humain, elle nous est commune. Et donc, au lieu de nous mettre là, rangés entre des chapelles comme des fronts de guerre face à face, je pense qu'il est possible de se dire, finalement, l'essentiel, c'est pareil. La divinité, nous la voulons. C'est quoi cette divinité? On peut remplacer ce mot divinité par tout ce qu'on veut. La lumière, la spiritualité, la richesse, le bonheur, la paix. Et tout ça, ce sont des choses essentielles à tout être humain. Et moi, je suis juste triste de voir les gens complètement... nécrosés dans leur couleur, dans leur territoire, dans leur tiroir identitaire. Donc voilà, moi, pour moi, écrire, c'est prendre la plume comme une scie pour taillader les tiroirs identitaires et les élargir. Que ce soit des tiroirs religieux, ethniques, culturels, politiques. Voilà, tout le monde doit pouvoir dialoguer pour rendre ce monde un peu meilleur. Et je suis consciente de rêver. Mais je tiens à rêver parce que c'est mon remède contre la déprime.
Louis-Philippe d'Alembert.
Oui, je suis d'accord avec Candy Fatou et sans être tout à fait d'accord à ce niveau-là, c'est-à-dire avec votre question surtout, c'est qu'on dialogue, qu'on essaye de faire éclater justement les murs, mais en même temps accepter que le fait que l'humanité est plurielle, est diverse. Et à partir du moment où on accepte justement qu'il n'y a pas une seule humanité, mais il y a des gens qui prient Allah justement, d'autres qui prient Jéhovah, d'autres qui prient Dieu ou Jésus ou tout ce qu'on veut. Mais il faut que moi j'accepte l'idée que cette personne-là soit différente de moi.
Mais le problème c'est qu'il faut que les autres aussi l'acceptent, parce que si vous êtes tout seul à l'accepter, vous avez
un
problème.
Ah non, justement, c'est-à-dire que... Mais attention, c'est-à-dire que je l'accepte, mais en même temps, si l'autre ne me respecte pas, j'essaie de me faire respecter aussi. C'est-à-dire que je n'accepte pas, je ne tends pas l'autre joue, comme dirait le Christ. Non, je ne veux pas tendre l'autre joue, mais je veux respecter et être respecté. C'est-à-dire que c'est tout le problème de l'humanité. Aujourd'hui, on parle souvent des tensions qu'il peut y avoir en grande partie en Occident dans les rapports hommes-femmes, de se dire qu'on est divers, on est différents, mais en même temps, on est à la fois les mêmes et on doit se respecter l'un l'autre. Pour moi, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que, et quelque chose de global, à partir du moment où on commence à penser global, eh bien, global, ça signifie et nier l'autre.
Attention,
pas tout dire.
Non, mais je répondais à la question.
À moi, c'est pas seulement global, je parle d'universalisme. Universalisme, ça ne veut pas dire global comme une espèce de bulle. Non, c'est l'addition. L'addition, cela ne veut pas dire métamorphoser l'autre élément. C'est plus, plus, plus. Donc, c'est comme si vous faisiez vos notes de musique pour composer votre gamme, pour avoir une harmonie. Donc, vous ne changez pas chaque note de musique, parce que sinon, vous n'auriez plus une musique, n'est-ce pas? Il faut qu'il y ait des variations.
Eh ben, beaucoup l'idée de plus, 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 d'additionner,
oui,
parce que ça correspond très bien à mon identité de Caribéen. Parce que nous, en tant que Caribéen, on a justement additionné, que ce soit l'Africain, l'Européen ou l'Amérindien. Oui. Donc, c'est-à-dire que je suis parti de
ça. Il n'y a pas de pureté.
Tout à fait.
Je parle de sortir de la confrontation. Voilà.
Darkness at the break of noon. Shadows even the silver spoon. The handmade blade, the child's balloon. Eclipses both the sun and moon. To understand you know too soon. There is no sense in trying. Pointed threats, they bluff with scorn. Seaweed side remarks are torn from the fool's gold mouthpiece. The hollow horn plays wasted words, proves to warn that he not busy being born is busy dying.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Adèle Caglar et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière. So don't fear if you hear a foreign sound to your ear. It's all right, ma. I'm only sighing. As some won victory, some downfall. Private reasons, great or small, can be seen in the eyes of those that call to make all that should be killed to crawl. While others say, don't hate nothing at all except hatred. Disillusioned words like bullets bark as human gods aim for their mark. Make everything from toy guns that spark to flesh-colored cries that glow in the dark. It's easy to see without looking too far that not much is really sacred. While preachers preach of evil fates, teachers teach that knowledge waits can lead to $100 plates. Goodness hides behind its gates, but even the president of the United States sometimes must have to stand naked. You know the rules of the road have been lodged. It's only people's games that you gotta dodge. And it's all right, ma, I can make it. Advertising signs that con you into thinking you are the one that can do what's never been done, that can win what's never been won. Meantime, life outside goes on. All around you, you lose yourself, you reappear. You suddenly find you got nothing to fear. Alone you stand with nobody near, when a trembling distant voice unclear startles your sleeping ears to hear that somebody thinks they really found you. Question in your nerves is lit, yet you know there is no answer to fit. To satisfy, ensure you're not a twit. To keep it in your mind and not forget that it's not he or she or them or it that you belong to. Although the masters make the rules for the wise men and the fools, I got nothing more to live up to. Old lady judges watch people.